Dans le ciel, le soleil était presque à mi-chemin de sa descente vers l'horizon occidental. Un vent soufflait, soulevant de la poussière sans apporter une once de fraîcheur. Le portail s'était ouvert dans une zone dégagée délimitée par une corde tendue entre quatre poteaux de bois. À chaque coin, deux hommes en pantalon bouffant et veste courte montaient la garde, une épée légèrement recourbée pendant à leur côté. Certains arboraient une épaisse moustache qui leur pendait jusqu'au menton, ou une barbe touffue. Et tous étaient dotés d'un nez proéminent et d'yeux noirs qui paraissaient inclinés. Dès que Rand apparut, l'un d'eux partit au pas de course.
« Que faisons-nous ici ?» demanda Dashiva en regardant autour de lui.
Des centaines de tentes pointues s'étendaient à perte de vue, ainsi que des chevaux déjà scellés attachés à une longue corde tenue par des piquets. Kaemlin n'était pas très loin de là, caché derrière des arbres, et la tour noire non plus. Mais Taïm ne saurait rien de cette visite, sauf s'il avait des espions sur le site. Et une des missions de Fedwin Mor consistait à déterminer, à sentir, s'il y avait quelqu'un en train d'espionner. En murmurant entre eux, des hommes qui entouraient la zone balisée se retournèrent pour regarder Rand avec de grands yeux. Tous avaient de gros nez et portaient sur la hanche une épée semblable à celle des gardes. Rand repéra quelques femmes. Rien d'anormal, car au Saldaea, les épouses allaient souvent à la guerre avec leurs maris, surtout parmi les nobles et les officiers. Mais aujourd'hui, il n'en serait pas question. Se baissant pour passer sous la corde, Rand se dirigea vers une tente semblable aux autres, à l'exception de l'étendard qui la surmontait, trois simples fleurs rouges sur champ d'azur. Les deniers du roi ne mouraient jamais, même durant les terribles hivers du Saldaea, et quand un incendie dévastait les forêts, ils étaient toujours les premiers à repousser. Une fleur que rien ne pouvait tuer, un symbole parfait pour la maison Bachéré. Sous la tente, le dit seigneur Bachéré était déjà équipé de la tête aux pieds. Comme de juste, Deira était à ses côtés, dans une robe d'équitation assortie à la veste grise de son époux. Elle ne portait pas d'épée, mais la longue dague, accrochée à sa ceinture en maillon d'argent, la remplaçait avantageusement. Les gantelets glissés dans cette même ceinture indiquaient qu'elle s'attendait à une rude chevauchée.
« Je ne m'attendais pas à ça avant des jours, »
dit Bachéré, en se levant d'une chaise de camp pliable.
« Des semaines même. Pour tout dire, j'espérais que tous les hommes de Taïm partiraient en étant armés, comme le jeune Matt et moi l'avions prévu. » J'ai réuni dans un seul atelier tous les fabricants d'arbalètes que j'ai pu trouver, et ils ont commencé à en produire comme une trime bat des petits cochons. Mais à ce jour, seuls 15 000 hommes ont une arbalète, et savent s'en servir.
Il s'empara d'une carafe d'argent reposant sur sa table de campagne couverte de cartes d'état-major.
« Nous avons le temps de boire un peu de punch ?»«
Non, pas une goutte, » répondit Rand.
Bachéré venait d'évoquer les hommes que Taïm avait trouvés et qui s'étaient révélés incapables d'apprendre à canaliser. Mais il avait écouté d'une oreille distraite. Si le seigneur pensait les avoir entraînés comme il fallait, il lui faisait entièrement confiance.
Dashiva et trois autres chamans attendent dehors. Dès que Mor les aura rejoints, nous serons prêts.
Rand regarda Deira Nigalin Tebachere, qui dominait de toute sa taille son mari, plutôt court sur pattes. Avec son nez crochu et ses yeux d'oiseau de proie, elle aurait pu faire passer un faucon pour un oiseau de compagnie.
Pas de ponche, seigneur Bachéré. Et pas d'épouse non plus.
Deira ouvrit la bouche, ses yeux noirs brillants de fureur.
« Pas d'épouse, »
répéta Bachéré en lissant sa moustache striée de gris.
« Je transmettrai cet ordre. »
Il se tourna vers Deira et lui tendit la main.
« Ma chère femme. »
Rand fit la grimace. Malgré la galanterie du seigneur, il s'attendait à un esclandre. Deira pinça les lèvres, puis baissa les yeux sur son mari comme un faucon qui vient de repérer une souris. À la différence près que Bachéré ne ressemblait pas à un rongeur, mais simplement à un faucon plus petit. Dame Bachéré prit une profonde inspiration. Chez elle, ça annonçait souvent une éruption volcanique. Là, elle décrocha la dague de sa ceinture et la posa dans la main de son mari.
« Nous reparlerons de ça plus tard, Davram. Très longuement. »
Un jour, quand il aurait le temps, décida Rand, il demanderait au seigneur comment il réussissait ses coups-là avec sa tigresse. Oui, un jour. S'il n'en avait jamais le temps.
« Très longuement, »
répéta Bachéré, en glissant la dague à sa propre ceinture. Ce type avait peut-être simplement des tendances suicidaires. Dehors, la corde délimitant la zone d'arrivée avait été retirée. Avec Dashiva et les autres achamans, Rand attendit, pendant que 9 000 cavaliers du Saldaea se plaçaient en rang par trois derrière le seigneur Bachéré. Derrière ces hommes, 15 000 combattants, qui se surnommaient eux-mêmes les Légions du Dragon, suivraient à pied.
Rand les avait aperçus en arrivant. Des soldats en veste bleue boutonnée jusqu'au col, afin de ne pas couper en deux le dragon rouge et or brodé sur la poitrine. La plupart portaient des arbalètes à arc en acier, et d'autres de lourds boucliers difficiles à manier. En revanche, aucun ne brandissait une pique. Quelle que soit l'ancienne stratégie que Matt et Bachiré avaient adaptée aux exigences modernes, Rand espéra que ça ne coûterait pas trop de vie humaine. Sautant quasiment d'impatience, Mort affichait un grand sourire. Peut-être simplement parce qu'il jubilait d'avoir retrouvé sa veste noire ornée au col d'une épée d'argent. Cela dit, Adley et Narishma souriaient aussi, et Flynn semblait beaucoup moins maussade que d'habitude. Désormais, tous savaient où ils allaient et ce qu'ils auraient à y faire. Comme toujours, Dashiva, l'air renfrogné, marmonnait entre ses dents. Rien de très étonnant. Massés derrière Daira, toutes les épouses foudroyaient leur mal du regard. Des oiseaux de proie frustrés et furieux. Mais le dragon réincarné se fichait comme d'une guigne de leur rire. Après les avoir tenus à l'écart de cette expédition, si Rand parvenait à s'en sortir entier face à Nandera et aux Promises, les époux de ces dames pourraient bien supporter de se faire tenir un long et pénible sermon. Aujourd'hui, si la lumière le voulait bien, pas une seule femme ne mourrait à cause de Rand. Même quand ils attendaient qu'on leur en donne l'ordre, autant d'hommes ne pouvaient pas se mettre en formation en un clin d'œil. Pourtant, très peu de temps s'écoula avant que Bachiré lève son épée et s'écrie.
« Pour le Seigneur Dragon !»
Derrière lui, des milliers de gorges reprirent en chœur.
« Pour le Seigneur Dragon !»
Rand se connecta à la source et tissa un portail entre les quatre poteaux qui avaient délimité la zone d'arrivée. Puis il noua les flux et franchit le passage, les achamans sur les talons, pour déboucher sur une grande esplanade entourée de hautes colonnes blanches, chacune étant surmontée par un chapiteau de marbre représentant des branches d'olivier. Aux deux extrémités de ce grand espace se dressaient deux palais presque identiques, dotés de toits écarlates, de grandes colonnades, de hauts balcons et de flèches élancées. L'un était le palais du roi, et l'autre, un peu plus petit, le grand hall du conseil. L'esplanade Tamaz, au cœur même d'Ilian. Un homme très mince en veste bleue, barbu mais sans moustache, écarquilla les yeux en voyant Rand et les cinq hommes en veste noire jaillir d'une ouverture en suspension dans les airs. Une femme enveloppée, sa robe verte assez courte pour dévoiler ses escarpins et la naissance de ses bas de la même couleur, plaqua les mains sur son visage et resta pétrifiée en face des envahisseurs. Tous les passants s'immobilisèrent, stupéfaits. Les colporteurs en oublièrent de bonimenter et les conducteurs de charrettes firent arrêter net leurs attelages de bœufs. Rand leva les mains et canalisa le pouvoir.
« Je suis le dragon réincarné !»
Amplifié par un tissage d'air et de feu, ces cinq mots retentirent comme le tonnerre, et des flammes jaillirent des mains de Rand, fusant jusqu'à quelques 100 pieds de haut. Dans son dos, les achamans lancèrent des boules de feu qui zébrèrent le ciel dans toutes les directions. Seul Dashiva se distingua du lot, car il fit crépiter un entrelac d'éclairs bleus juste au-dessus de l'esplanade. Il n'en fallut pas plus pour provoquer la panique. En hurlant de terreur, la foule quitta l'esplanade Tamaz, dans un désordre indescriptible. Une bonne initiative, cela dit. Car Rand et ses achamans s'écartèrent du portail pour laisser passer une horde de cavaliers, armes au poing, qui semblaient prêts à rayer Ilian de la carte du monde, en attendant d'en faire autant avec le reste du royaume. Conformément au plan conçu ce qui semblait une éternité plus tôt, Davram Bachiré guida le rang central de cavaliers droit devant lui, tandis que les deux autres se déployaient latéralement. Ensuite, ces deux rangs se séparèrent en plusieurs petits groupes, qui s'engouffrèrent dans toutes les rues partant de l'esplanade. Rand n'attendit pas de voir la fin de la manœuvre. Avant qu'un tiers des cavaliers soit sorti du portail, il tissa une autre ouverture, plus petite. Quand on entendait voyager sur une courte distance, on n'avait pas besoin de connaître un lieu. Derrière lui, Rand sentit que Dashiva et les quatre autres généraient eux aussi des portails. Mais il n'attendit pas qu'ils aient terminé pour franchir le sien et le laisser se refermer tandis qu'il arrivait au sommet d'une des hautes et fines tours du palais royal. Distraitement, il se demanda si Matin Stepaneos d'Enbalgar, le souverain de Liliane, était en ce moment quelque part au-dessous de lui. Entouré par un muret de pierre rouge qui arrivait à peine à la taille de Rand, le sommet de la tour ne devait pas faire plus de 5 pas de diamètre. Culminant à quelques 150 pieds de haut, c'était le point d'observation le plus élevé de la ville. De là, on voyait très loin au-delà des toits multicolores, jusqu'aux longues digues de pierre qui s'enfonçaient dans le grand marais entourant la ville et le port. Une forte odeur iodée planait dans l'air. Avec de telles défenses naturelles, Ilian n'avait aucunement besoin d'un mur d'enceinte pour arrêter des assaillants. En tout cas, ceux qui ne savaient pas forer des ouvertures dans les airs. Mais là, des fortifications auraient été parfaitement inutiles.
Sillonnée par autant de canaux que de rues, de si haut, on eût dit un réseau de broderies bleues et vertes, la plupart de ces bâtisses en pâles pierres taillées, Ilian était une très belle cité. Mais Rand ne prit pas le temps de l'admirer. Tournant lentement sur lui-même, il expédia des flux d'air, d'eau, de feu, de terre et d'esprit au-dessus des toits des tavernes, des boutiques et des palais. Sans essayer de tisser ces flux, il les dispersa simplement dans toute la ville et un bon quart de lieue à l'intérieur du marais. Du haut de 5 autres tours, des flux balayaient eux aussi la zone, se rencontrant parfois par hasard. L'explosion de lumière et de couleurs qui en résultait aurait fait la joie d'un illuminateur. Plus sérieusement, c'était la meilleure façon possible de terroriser les citadins et de les inciter à s'éparpiller comme une volée de moineaux devant les cavaliers de Bachéré. Très longtemps auparavant, Rand avait postulé que Samael s'était sûrement arrangé pour tisser dans toute la cité des protections conçues pour donner l'alarme si quelqu'un canalisait le Saïdin. Des défenses inversées, afin que le rejeté soit seul en mesure de les localiser et focalisé pour permettre le repérage immédiat de l'homme en train de canaliser. Cela fait, Samael n'aurait plus qu'à le détruire. Avec un peu de chance, toutes ces défenses étaient activées en même temps par les flux de Rand et des 5 achamans. Et d'après Loustérine, Samael capterait les alarmes où qu'il soit. Conscient que ses défenses étaient battues en brèche, une protection activée devait être retissée pour remplir de nouveau sa fonction, le rejeté viendrait à Ilian. De sa longue existence, il n'avait jamais renoncé à un bien qu'il considérait comme sien. Si ridicules que soient ses prétentions, il combattait. Des informations que Rand tenait de Loustérine, s'il était réel. Mais comment croire le contraire? Ses souvenirs étaient bien trop détaillés. Cela dit, les élucubrations d'un fou pouvaient l'être aussi.
« Loustérine !» appela mentalement Rand. Seul le vent qui soufflait sur Ilian lui répondit.
En bas, l'esplanade Tamaz était déserte, à l'exception de quelques charrettes abandonnées. Sur le côté, le portail était invisible, sauf quand on avait l'aptitude de voir les tissages. Les reprenant en main, Rand les dénoua. Alors que l'ouverture se volatilisait, il se coupa à contre-cœur du Saïdin. Dans le ciel, tous les flux disparurent. L'un ou l'autre des achamans était peut-être encore connecté à la source malgré ses ordres. Eh bien, il fallait espérer que non. Une fois qu'il aurait cessé lui-même de canaliser le pouvoir, les avait-il prévenus, tout homme qui continuerait à le faire serait abattu sans sommation. Tant qu'à faire, il préférait ne pas avoir à tuer un de ses alliés. S'appuyant au muret, Rand attendit, désolé de ne pas pouvoir s'asseoir. Ses jambes lui faisaient un mal de chien, comme son flanc, et seule la position assise le soulageait un peu. Mais il avait besoin de voir aussi loin que possible. Une sécurité, au cas où son aptitude à sentir le pouvoir lui ferait défaut. La ville n'était pas entièrement silencieuse. De plusieurs directions montaient des cris et le fracas des armes qui s'entrechoquent. Même s'il avait massé beaucoup d'hommes à la frontière, Samael n'avait pas laissé la capitale totalement sans défense. Rand pivota de nouveau sur lui-même, pour sonder toutes les directions. En principe, Samael arriverait dans le palais royal, ou dans celui d'en face, mais il n'y avait aucun moyen d'en être sûr. Dans une rue, des cavaliers de Bachéré affrontaient des défenseurs à cheval, portant des armures étincelantes. Des renforts arrivèrent soudain, forçant les Ilianiens à battre en retraite, et tout ce petit monde finit par disparaître au coin d'une autre rue. Sur un pont, un détachement de la Légion du Dragon avançait derrière un officier, au casque orné d'une grande plume rouge. Protégé par une 20aine d'hommes brandissant leur énorme bouclier, 200 arbalétriers se tenaient prêts à tirer. Dans cette configuration, comment ces soldats combattraient-ils efficacement? Partout en ville, des hommes se battaient et mouraient. Un éternel recommencement. Le soleil déclinant de plus en plus, les ombres s'allongèrent sur la ville. Avec le crépuscule, les premières étoiles apparurent. Rand s'était-il trompé? Samael allait-il simplement se chercher une autre tanière? Un nouveau royaume à dominer? Les conseils avisés de Loustérine n'étaient-ils finalement que les fantaisies de son propre cerveau malade? Soudain, un homme canalisa. Un instant pétrifié, Rand braqua les yeux sur le grand hall du conseil. La quantité de Saïdin correspondait au tissage d'un portail. Étant donné la taille de l'esplanade, il n'aurait sans doute pas capté des flux moins importants. Il devait s'agir de Samael. Rand se connecta à la source, tissa un portail et le franchit, des éclairs prêts à jaillir de ses mains. il arriva dans une vaste pièce éclairée par des lampes dorées à déflecteurs, certaines sur pied et d'autres pendant du plafond. Sur les murs de marbre blanc, des frises représentaient des batailles ou le port d'Iliane bondé de bateaux. Au fond de la salle, sur une estrade, 9 fauteuils richement sculptés et dorés étaient disposés comme autant de trônes, celui du milieu ayant un plus haut dossier que les autres. Avant que Rand ait pu faire disparaître le portail dont il venait de sortir, le sommet de la tour où il se tenait un instant plus tôt explosa. Propulsé en avant par l'onde de choc, le jeune homme s'étala face contre terre. L'atroce douleur, dans son flanc, pénétra le cocon de vide comme le fer chauffé au rouge d'une lance. Tétanisé, Rand ne put faire autrement que se couper du Saïdin. Mais la douleur et la faiblesse, dans le vide, il pouvait les traiter comme s'ils étaient celles de quelqu'un d'autre. Les ignorer, d'une certaine façon. Forçant des muscles qui n'étaient plus à lui à bouger malgré la souffrance, il se releva et courut vers l'estrade au moment où des centaines de filaments rouges transperçaient le plafond et les dalles de marbre du sol, dessinant un grand cercle de mort autour des rémanences du portail. Une de ces lames de feu transperça le talon de la botte de Rand, puis sa propre chair. Entendant un cri de douleur qui ne lui parut pas sortir de sa gorge, il s'écroula. Cette souffrance-là n'était pas la sienne non plus. Pas la sienne. Rand roula sur le dos et eut ainsi le temps de voir l'image spectrale des filaments de feu rouge. Un tissage d'air et de feu inédit pour lui. Quant à la direction d'où il venait, les trous noirs encore fumants dans le plafond et le sol permettaient de la déterminer aisément. Levant les mains, Rand tissa des torrents de feu. Non, commença à tisser. Une joue qui ne lui appartenait pas se souvint d'une douleur cuisante, et une voix retentit dans sa tête.
« Plus de torrents de feu! Jamais !»
Katsuane. Dans un coin de sa tête, Rand crut entendre l'oustérine gémir d'angoisse à l'idée de ce que le dragon réincarné allait déchaîner sur le monde, une force qu'il avait déjà disloquée une fois. Ne conservant que les flux d'air et de feu, le jeune homme imita les tissages qu'il venait de découvrir. Un millier de filaments fusèrent de ses mains, se déployèrent et montèrent vers le plafond, où ils découpèrent un cercle de 2 pieds de diamètre. Alors, et seulement alors, Rand songea qu'il y avait peut-être quelqu'un entre Samael et lui. Aujourd'hui, il avait l'intention bien arrêtée de tuer le rejeté, mais s'il pouvait éviter qu'il y ait d'autres victimes. Tandis que ses tissages se volatilisaient, Rand se releva une nouvelle fois et courut en clopinant vers la porte de la salle, sur un côté, dont chaque battant était décoré par 9 abeilles d'or de la taille de son poing. Un léger flux d'air, indétectable à n'importe quelle distance, poussa un des battants devant lui. Passant dans le couloir, Rand se laissa tomber sur un genou. Le flanc de l'homme qui n'était pas lui était en feu, et son talon l'élançait atrocement. Dégainant son épée, le dragon réincarné s'appuya dessus. À une intersection, un homme rasé de frais aux joues bien roses jeta un coup d'œil dans le couloir, révélant assez de sa veste pour que Rand identifie un domestique. En tout cas, pour lui, une veste verte d'un côté et jaune de l'autre avait toutes les chances d'appartenir à une livrée. Voyant qu'on l'avait repéré, l'homme recula lentement la tête, comme si se montrer furtif pouvait le protéger. Tôt ou tard, Samael devrait...
« Liliane m'appartient !»
cria une voix qui semblait venir de toutes les directions à la fois. Le même tissage que Rand avait utilisé sur l'esplanade, si économe en Saïdin qu'il n'aurait pas senti les flux, même en étant à 10 pas du rejeté.
« Cette ville est à moi. Pour te tuer, je ne détruirai pas ce qui m'appartient, et je ne te laisserai pas davantage le détruire. Tu as eu le cran de venir jusqu'ici pour moi. Auras-tu le courage de me suivre de nouveau ? Oui, auras-tu ce courage ?»
Le ton, légèrement moqueur, indiquait que Samael en doutait. Au-dessus de Rand, un portail s'ouvrit et se referma. Inutile de se poser des questions sur ce que c'était. Tant la réponse s'imposait. Le courage ? Avait-il le courage ?
Je suis le dragon réincarné, et je vais te tuer !
Rand ouvrit lui aussi un portail, le franchit, et se retrouva des étages plus hauts. Un autre couloir, avec des tapisseries montrant des navires en mer. Tout au bout, les dernières lueurs du crépuscule sourdaient d'une galerie à colonnades. Les résidus du portail de Samael flottaient toujours dans les airs, les flux apparaissant sous la forme d'ectoplasme vacillant. Mais pas assez vacillant pour que Rand ne le distingue pas. Il commença à canaliser, mais s'interrompit. Il avait foncé jusqu'ici sans songer un seul instant à un piège.
S'il copiait le tissage du rejeté, il arriverait exactement là où celui-ci avait déboulé, ou si près que ça ne ferait aucune différence. Avec une très légère altération, en revanche. Impossible de savoir si l'écart serait de 50 pieds ou de 500, mais les deux conviendraient. La fente verticale argentée commença à tourner sur elle-même, s'ouvrant pour révéler de glorieuses ruines plongées dans la pénombre, mais moins enténébrées que le corridor. À travers le portail, le soleil, pourtant caché par un dôme à moitié écroulé, semblait avoir encore un peu de chemin à faire avant de sombrer totalement à l'horizon. Rand reconnut cette cité de cauchemar. Lors de sa dernière visite, il avait dû ajouter un nom à la trop longue liste de promises mortes pour lui. Durant la première, Padan Fain les avait suivis, ses compagnons et lui, et il était devenu beaucoup plus qu'un suppôt des ténèbres. Bien pire qu'un suppôt, en réalité. Samael avait trouvé refuge à Shadar Logoth, et en un sens, on pouvait dire que la boucle était bouclée. Et maintenant que le rejeté avait ramené Rand à son point de départ, car à plus d'un titre, tout avait commencé ici, il n'y avait plus de temps à perdre. Sans attendre que le portail se soit entièrement ouvert, Rand le franchit pour pénétrer dans la cité dévastée qui s'appelait jadis Aridol. Boitillant sur les pavés défoncés et des feuilles mortes, il laissa le tissage se dissiper derrière lui. Alors qu'il tournait au coin d'un bâtiment, le sol trembla sous ses pieds, et des grondements de tonnerre retentirent derrière lui. Des éclairs déchirant le ciel déjà obscur, il sentit un déchaînement de terre, de feu et d'air. Dans ce vacarme, des cris à glacer les sangs montèrent d'un peu partout. Le Saïdin coulant à flot en lui, Rand continua son chemin, sans jeter un regard en arrière. Toujours clopinant, mais protégé de sa souffrance par le vide, il ne se souciait pas de l'obscurité, car le pouvoir lui permettait d'y voir très clairement. La grande cité fantôme se dressait tout autour de lui, avec ses énormes palais de marbre, aux dômes baignés d'une lumière rouge par le soleil couchant. À chaque intersection, une fontaine et sa statue de bronze rappelaient que la vie avait été jadis foisonnante ici. Partout, des promenades menaient à des tours majestueuses qui tutoyaient les cieux. Enfin, qui les auraient tutoyées si elles avaient été encore intactes. Pour chaque bâtiment encore debout, 10 étaient à moitié écroulés ou au minimum proprement décapités. Même chose pour les statues, celles qui ne gisaient pas sur le sol, renversées et brisées, étant amputées d'un membre ou privées de leur tête. Tandis que les ténèbres descendaient sur la ville, l'enveloppant à une vitesse folle et occultant les montagnes de gravats, quelques arbres encore accrochés au sol semblaient tendre leurs branches vers le ciel, en une muette supplication. Un mur de pierre et de briques, vestige d'un effondrement, barra le chemin de Rand, alors qu'il passait devant un petit palais dont la moitié de la façade manquait, le reste étant dangereusement incliné au-dessus de la rue. S'arrêtant net à quelques pas de l'obstacle et en plein milieu des pavés, Rand attendit, concentré, afin de détecter un éventuel utilisateur du Saïdin. Ici, longer les murs n'était pas une bonne idée, et pas seulement parce qu'un bâtiment pouvait s'écrouler à tout moment. Derrière toutes les fenêtres dévastées, on eût dit que des dizaines de perdieux, des yeux de chasseurs, épiaient leur proie en contenant mal leur impatience. De très loin, Rand sentit que sa nouvelle plaie sur le flanc les lançait terriblement. Sans doute parce qu'elle réagissait à la puissance maléfique qui, à Shadar Logoth, s'accrochait au plus infime grain de poussière. L'ancienne blessure, elle, se refermait au contraire comme un poing, et la douleur au talon semblait infiniment lointaine. Autour de Rand, le cocon de vide pulsait follement, la souillure infligée au Saïdin par le ténébreux battant au même rythme que l'entaille faite par la dague de Padan Fain. En plein jour, Shadar Logoth était un endroit très dangereux. De nuit... Au bout d'une rue, au-delà d'un monument orné de tourelles miraculeusement intactes, quelque chose bougea. Une ombre traversant les pavés sur un fond d'obscurité. Rand faillit canaliser le pouvoir, mais il ne parvint pas à croire que Samael était du genre à s'enfuir ainsi. Un peu plus tôt, quand le rejeté avait tenté de tout détruire autour de son portail, le jeune homme avait entendu des cris déchirants. Sur le coup, il n'y avait guère prêté attention. À Shadar Logoth, il n'y avait rien de vivant, pas même des rats. Donc, Samael n'était pas venu seul, amenant avec lui des sbires qu'il était prêt à sacrifier, voire à tuer lui-même, si ça lui permettait d'atteindre Rand.